la parole de Dieu s'intéresse à nos vies, la Bible s'intéresse à nos vies, son contenu s'intéresse à nos vies d'aujourd'hui. Alors ça peut paraître surprenant dans ces textes qui ont été écrits il y a si longtemps. La semaine dernière, nous avons vu les difficultés qu'avait rencontré Abraham lorsque son épouse Sarah est décédée. Elle s'est trouvée un petit peu pris au dépourvu. Comment faire pour l'enterrer, des choses auxquelles nous serons tous confrontés d'une façon ou d'une autre. Aujourd'hui, un autre événement important de la vie, en suivant Genèse 24, le sujet de la rencontre de l'âme sœur. Alors, quand on est jeune, je sais pas, bon moi, c'était il y a longtemps, mais il y a toujours ce souci, mais comment ça va se passer? Alors on a des dans la famille qui nous racontent comment ils ont rencontré leur épouse, leur conjoint. Des fois ils ont les yeux qui brillent comme ça, ce souvenir est tellement vivant encore dans leur cœur. Et alors on se dit ouais, comment ça va être pour moi, hein? Ils parlent d'eux, de leur vie, de leur rencontre. Et en effet, chaque rencontre, chaque constitution d'une cellule familiale, d'un noyau, est unique. Hein, c'est unique. Comment cela va se passer pour moi? C'est peut-être des questions qu'on a. Est-ce que je vais trouver cette âme sœur? Qu'est-ce que Dieu me réserve? Est-ce que ça existe, le grand amour, les coups de foudre, tout ce que on nous parle parfois? Alors, la Bible aborde ce sujet pour la première fois, donc en Genèse 24. C'est un texte narratif, c'est un récit. C'est pas un texte de loi, c'est pas un texte de prophétie, c'est pas de la doctrine de Paul. Hein. C'est pas non plus des paroles de Jésus. C'est un texte, mais comme il se trouve le premier, dans la première fois dans la Bible où l'on parle de ce sujet-là, ben ça fait un petit peu référence. Je dis première fois, pas tout à fait, puisqu'il y avait le texte de Genèse chapitre 2, qui est le fondement du mariage. Mais là, c'est plutôt dans un contexte chrétien que cela va s'adresser et parler à nous, hein, tout particulièrement pour les chrétiens. Donc, une histoire surprenante, romantique, très belle, mais pas seulement cela. Et si le Dieu nous émerveille, s'il nous fait rêver avec ce beau récit, il veut aussi nous instruire, petits et grands, jeunes et vieux, pour notre bien, pour notre bonheur ultime. Alors, après ces quelques mots d'introduction, on va lire ce long chapitre. Je vais faire une lecture, j'ai divisé en parties comme ça, pour pas faire tout d'un coup. Et donc on va lire une partie, je vais apporter un petit commentaire à chaque fois. Après on réfléchira, mais qu'est-ce qui relève des choses qui sont pas sur lesquelles on ne peut pas s'appuyer pour construire sa vie aujourd'hui, mais quelles sont les choses sur lesquelles vraiment, là il y a des choses qui sont importantes, là il y a des choses qu'il faut retenir. J'essaierai de faire la distinction, et puis on ira un petit peu plus loin également, pour que tout le monde puisse recevoir quelque chose ce matin, quelle que soit notre situation. Une belle histoire donc, Genèse 24, chapitre 1. Chapitre 24, verset 1. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, « Mais je te prie ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays, dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. » Le serviteur lui répondit, « Peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Dois-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? » Abraham lui dit, « Garde-toi d'y mener mon fils, L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé, qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité, l'Éternel lui-même enverra son ange devant toi. Et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je te fais faire. Seulement, tu n'y mèneras pas mon fils. Le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son seigneur, et lui jura d'observer ces choses. Bon, petite remarque là, serviteur mis sous la main, sous la cuisse, etc. Bon, des choses qui signifient qu'ils ont prêté serment, tout simplement. Pourquoi ces choses-là sont rédigées ainsi? Ben, ça montre que les textes n'ont pas été modifiés depuis les temps où ils ont été rédigés. Et voilà, ça, toutes ces expressions qu'on se dit, mais qu'est-ce que ça fait là? Ah ben, c'est là pour plaider comme quoi le texte est bien fiable. Et il nous est arrivé de 4000 ans en arrière. Abraham charge son serviteur d'une mission. Donc, Dieu a fait à Abraham la promesse de lui donner une postérité nombreuse, comme les étoiles du ciel, à travers son fils Isaac, désigné, que son épouse Sarah a mis au monde à 90 ans. Le temps est passé, Sarah est décédée, et Isaac va bientôt avoir 40 ans, et toujours célibataire. Abraham a parcouru le pays de Canaan de long en large et estime que ce n'est pas là que se trouve la femme de la promesse qui va pouvoir s'unir au fils de la promesse. Mais il trouvera cette femme dans son pays d'origine. Abraham donc prend les choses en main. Il ne va pas forcer la main de Dieu, vous l'avez vu, comme il l'a fait avec Agar et Ismaël. Là, Dieu avait fait une promesse et vous savez, Abraham et Sarah s'étaient dit que voilà, il fallait faire les choses. Dieu apparemment pouvait pas donner ce fils et donc ils ont essayé de bricoler quelque chose avec Agar qui a été un échec complet. Non, Abraham ne force pas la main à Dieu, mais il est acteur, il va être acteur et non spectateur de l'accomplissement de la promesse. Il y a un dosage entre tout laisser faire à Dieu et le dosage et vouloir faire soi-même. Ce texte nous montre qu'il y a un juste équilibre entre les deux à trouver, hein, être acteur des promesses de Dieu, entrer dans les prophéties. Alors là maintenant, la question qui se pose, comment va s'y prendre ce serviteur pour remplir cette mission qui lui a été confiée? Trouver une femme pour Isaac, rien de moins. Verset 10. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son seigneur et il partit, ayant à ses dispositions tous les biens de son seigneur. Il se leva et à la Mésopotamie, à la ville de Nahor, en fait. Je ne suis pas un spécialiste de la prononciation. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux hors de la ville, près d'un puits, au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Et il dit, Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire. Use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui me répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, ce soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule, Rebecca, née de Bethuel, fils de Milca, femme de Nahor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle de figure. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut au-devant d'elle et dit « Laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. » Elle répondit « Bois, mon Seigneur. » Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et lui donna à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit « Je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. » Et elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut encore au pied pour puiser. Et elle puisa pour tous les chameaux. L'homme la regardait avec étonnement et sans rien dire, pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Quand les chameaux... Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or du poids d'un demi-sicle, deux bracelets du poids de 10 cycles d'or et dit « De qui es-tu fille? Dis-le-moi, je te prie. Y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour passer la nuit ?» Elle répondit « Je suis Bethuel, fils de Milca et de Nahor. » Elle lui dit encore « Il y a chez nous de la paille, du fourrage en abondance et de la place pour passer la nuit. » Alors, l'homme s'inclina et adora l'Éternel en disant « Béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité envers mon Seigneur. Moi-même, l'Éternel m'a conduit à la maison des frères de mon Seigneur. La jeune fille courut raconter ces choses à la maison de sa mère. Alors, Dieu aide le serviteur à remplir sa mission. Dieu est à l'œuvre dans ce passage. Le serviteur demande l'aide de Dieu et il est exaucé. Mais vous avez remarqué qu'il ne... Pour autant, il ne se défausse pas de toute responsabilité. En effet, c'est lui qui va choisir la fille à qui il va poser la question. Il se trouve qu'il a posé la question à la première jeune fille qui venait, mais c'est lui qui a choisi. Elle doit être belle, serviable, vierge, et aimer les animaux. Il pose des critères avec la question qu'il va lui poser. Isaac était leveur, hein, donc avoir le souci des animaux et de leurs soins était important, je suppose. Et tout ça, il ne le fait pas pour lui, mais pour son Seigneur. Et la barre, elle est mise assez haute, parce que puiser de l'eau pour 10 chameaux... C'est pas une mince affaire. Jusqu'à ce qu'ils aient assez bu, dit Rebecca. Et alors elle a dû y aller un grand nombre de fois puiser. C'est des centaines de litres d'eau qu'il fallait là. Et donc le serviteur, comme Abraham, on le voit, collabore avec Dieu. Collabore avec Dieu. Dieu répond à sa prière de façon époustouflante. On a vraiment l'impression que Dieu avait déjà tout préparé à l'avance. Et quel est le résultat? La louange de ce serviteur devant la façon dont Dieu avait conduit la situation et qu'il avait répondu à la prière, non pas pour lui-même, dit le serviteur, mais pour mon Seigneur. Alors, est-ce que la jeune fille va accepter de partir avec lui vers Isaac? C'est la question qui se pose maintenant. Voyons voir la suite du récit. Versets 29 à 58, un grand passage maintenant. Rebecca avait un frère nommé Laban. Et Laban courut dehors vers l'homme près de la source. Tout le monde est dynamique dans cette histoire. Il avait vu l'anneau et les bracelets aux mains de sa sœur. Il avait entendu les paroles de Rebecca, sa sœur, disant « Ainsi m'a parlé l'homme ». Il vint donc à cet homme qui se tenait auprès des chameaux vers la source et il dit « Viens, viens béni de l'Éternel, pourquoi resterais-tu dehors ? J'ai préparé la maison et une place pour les chameaux ». L'homme arriva à la maison. Laban fit décharger les chameaux et il donna de la paille et du fourrage aux chameaux et de l'eau pour laver les pieds de l'homme et les pieds des gens qui étaient avec lui. Puis, il lui servit à manger. Mais il dit, le serviteur, « Je ne mangerai point avant d'avoir dit ce que j'ai à dire. »« Parle !» dit Laban. Alors, le serviteur dit, « Je suis serviteur d'Abraham. L'Éternel a comblé de bénédictions mon Seigneur, qui est devenu puissant. Il lui a donné des brebis, des bœufs, de l'argent, de l'or, des serviteurs, des servantes, et des chameaux, des ânes. Sarah, la femme de mon Seigneur, a enfanté dans sa vieillesse un fils à mon Seigneur, et il lui a donné tout ce qu'il possède. Mon Seigneur m'a juré en disant, « Tu ne prendras pas pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens dans le pays duquel j'habite. Mais tu iras dans la maison de mon père et de ma famille prendre une femme pour mon fils. » J'ai dit à mon Seigneur, « Peut-être la femme ne voudra pas me suivre. » Et il m'a répondu, « L'Éternel devant qui j'ai marché enverra son ange avec toi et fera réussir ton voyage. » Et tu prendras pour mon fils une femme de la famille de la maison de mon père. Tu seras dégagé du serment que tu me fais quand tu auras été vers ma famille. Et si on ne te l'accorde pas, tu seras dégagé du serment que tu me fais. Je suis arrivé aujourd'hui à la source et j'ai dit, Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, si tu daignes faire réussir le voyage que j'accomplis, voici. Je me tiens près de la source d'eau, que la jeune fille qui sortira pour puiser, à qui je dirai, laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche, et qui me répondra, bois toi-même, et je puiserai aussi pour les chameaux, que cette jeune fille soit la femme que l'Éternel a destinée au fils de mon Seigneur. Avant que j'aie fini de parler à mon cœur, voici Rebecca est sortie, sa cruche sur l'épaule, elle est descendue à la source et elle a puisé. Je lui ai dit, donne-moi à boire, je te prie. Elle s'est empressée d'abaisser sa cruche de dessus mon épaule et elle a dit, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux. J'ai bu et elle a aussi donné à boire à mes chameaux. Je l'ai interrogée et j'ai dit, de qui es-tu fille? Elle a répondu, je suis fille de Bethuel, fils de Nahor et de Milka. J'ai mis l'anneau à son nez, les bracelets à ses mains. Et je me suis incliné, j'ai adoré l'Éternel, j'ai béni l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui m'a conduit fidèlement, afin que je prenne la fille de mon frère, du frère de mon Seigneur pour son fils. Maintenant, si vous voulez user de bienveillance et de fidélité envers mon Seigneur, déclarez-le-moi. Sinon, déclarez-le-moi et je me tournerai à droite ou à gauche. Laban et Bethuel répondirent et dirent, c'est de l'Éternel que vient la chose. Nous ne pouvons te parler ni en bien ni en mal. Voici Rebecca, devant toi. Prends et va, qu'elle soit la femme du fils de ton Seigneur. Comme l'Éternel l'a dit. Lorsque le serviteur d'Abraham eut entendu leurs paroles, il se prosterna devant l'Éternel. Et le serviteur sortit des objets d'argent, des objets d'or, des vêtements qu'il donna à Rebecca. Il fit aussi des riches présents à son frère et à sa mère. Après quoi, ils mangèrent et ils burent, lui et les gens qui étaient avec lui, et ils passèrent la nuit. Le matin, quand ils furent levés, le serviteur dit « Laissez-moi retourner vers mon Seigneur. » Le frère et la mère dirent « Que la jeune fille reste avec nous quelque temps encore, une dizaine de jours, ensuite tu partiras. » Il leur répondit « Ne me retardez pas. Puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage, laissez-moi partir et que j'aille vers mon Seigneur. » Alors ils répondirent « Appelons la jeune fille, consultons-la. » Ils appelèrent Rebecca et ils lui dirent « Veux-tu aller avec cet homme ?» Elle répondit « J'irai. » Et ils laissèrent... Attends, ça s'arrête là. « J'irai. » Sur ce « J'irai » de Rebecca. Alors, est-ce que la jeune fille va accepter de partir avec Isaac ? Oui. C'était ma phrase de transition. Alors, on a trouvé Laban impressionné. Hein. Les bijoux offerts à sa sœur, les chameaux. Il paraît qu'à cette époque-là, les chameaux, c'était pas courant. Hein. Peut-être on pourrait faire l'image de maintenant, si on, ça devait être au 21e siècle, hein, vous voyez quelqu'un qui arrive avec un jet privé ou avec un hélicoptère, comme ça, avec toute sorte une suite. Ça impressionne, hein. Et bien sûr, il entend le récit de l'intervention divine du Dieu d'Abraham. Et sa mère et lui sont d'accord pour le mariage. Comme l'Éternel l'a dit. Au verset 51, et l'affaire semble entendue. Mais le lendemain, au moment du départ, ils cherchent à retarder ce départ. Hein. Leur collaboration est plutôt à l'envers, ici. On voit qu'ils ne collaborent pas dans le sens de l'accomplissement de la promesse de Dieu, mais ils collaborent à l'envers pour retarder cet accomplissement. Finalement, on demande l'avis à la principale intéressée qui dit « J'irai ». Bon, tout semble parfait. Maintenant, quelle va être la réaction de Isaac ? Lui non plus, on lui a pas demandé son avis depuis le début de cette histoire. Hein. Quelle va être sa réaction ? Alors, lisons la fin de notre chapitre maintenant. Donc, ils laissèrent partir Rebecca, leur sœur et sa nourrice, avec le serviteur d'Abraham et avec ses gens. Ils bénirent Rebecca et lui dirent « Ô notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de myriades et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. » Rebecca se leva avec ses servantes. Elles montèrent sur les chameaux et suivirent l'homme. Et le serviteur amena Rebecca et partit. Cependant, Isaac était revenu du puits de la Kaïroï et il habitait dans le pays du Midi, au sud du pays de Canaan, donc. Un soir, qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs, il leva les yeux et regarda. Et voici des chameaux qui arrivaient. Rebecca aussi leva aussi les yeux et vit Isaac. Elle descendit de son chameau et dit au serviteur, « Qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre ?» Et le serviteur répondit, « C'est mon Seigneur. » Alors, elle prit son voile et se couvrit. Le serviteur raconta à Isaac toutes les choses qu'il avait faites. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca, qui devint sa femme, et il l'aima. Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa maman. » le mariage d'Isaac et de Rebecca, donc. Rebecca est partie vers son époux. Alors c'est quand même un long voyage, hein. C'est formidable le travail qu'ont fait les archéologues parce qu'ils ont déterré des tablettes là dans une ville, d'une vieille ville de Mésopotamie qui s'appelle Marie, je crois, la ville. Et donc là, il est dans ces tablettes là, il est mentionné la ville de Nahor dont il est question ici dans notre texte. Cette ville, donc, on sait où elle se situe, dans le sud de la Turquie actuelle, très proche de la frontière avec la Syrie. Quelques 900 kilomètres du sud de Canaan. À Chamon, 2-3 semaines de voyage. Et alors on peut imaginer Rebecca en chemin, elle va retrouver un pays qu'elle connaît pas, une famille qu'elle connaît pas, un homme qu'elle va épouser. Et là on peut imaginer de poser 1000 questions aux serviteurs qui voyagent avec elle, de tout savoir, de tout connaître sur Isaac et sur la vie fascinante d'Abraham. Et moi, j'imagine qu'au fur et à mesure que le voyage s'est avancé, ben son enthousiasme a grandi, mais son appréhension aussi a dû grandir en même temps par rapport à cette rencontre. Et de son côté, lui, Isaac, il médite dans les champs. Alors, c'est une très belle image que la parole de Dieu nous dit. Je suis jaloux de Isaac, de ce que moi, je ne sais pas pourquoi, mais je médite pas dans les champs. Notre principale activité à notre 21e siècle, c'est de remplir les emplois du temps. On remplit les emplois du temps pour qu'ils soient pleins. Et quelle place il y a pour aller méditer tranquillement dans la nature. Le verset 66 est important, je trouve. Le serviteur raconta à Isaac toutes les choses qu'ils avaient faites. Il fait un compte rendu à Isaac. Et Isaac se rend compte, ben ouais, c'est Dieu qui m'amène ma femme là. Hein? C'est le Dieu de mon père. Rebecca n'est pas le choix du serviteur, mais le choix de Dieu qui ne se trompe jamais. Et il aima Rebecca, nous dit le texte. Alors, la parole de Dieu nous donne un beau modèle de mariage, mais cela se passait il y a si longtemps, 4000 ans. Qu'est-ce qui est normatif dans ce récit? Qu'est-ce qui est valable encore pour nous aujourd'hui? Quelles applications pour une jeune fille ou pour un jeune homme du 21e siècle? Alors, je commencerai par ce qui n'est pas normatif. Une chose qui n'est pas normative, c'est le temps court. Si on retire le temps de trajet, tout se passe très rapidement. On ne passe pas des mois à préparer le mariage, tout ça. C'est rapide. On trouve un petit peu plus loin dans l'histoire du fils de Isaac, de Jacob. Là, il est question de 7 ans d'attente pour Jacob. 7 années. Alors, le temps court n'est pas normatif, on est d'accord. On a un mariage, est-ce que les mariages sont arrangés par les parents? On ne peut pas dire cela non plus, parce que on voit bien que c'est Dieu qui a arrangé tout cela. Amen. Est-ce qu'on doit se marier les yeux fermés? Non. Non plus, ça c'est pas quelque chose, je pense, qu'il faut retenir de ce texte, se marier les yeux fermés, sans voir, comme a fait Rebecca et Isaac, sans se voir au préalable. Parce que ici, on a quand même Abraham et le serviteur qui ont posé des critères de bon sens pour le choix de l'épouse d'Isaac. Abraham en désignant la famille d'où elle devait venir, et Isaac, et le serviteur, on a vu, en posant ces critères, des critères de bon sens que Dieu a honoré aussi. Se marier les yeux fermés n'est pas un, normatif, donc, et l'argent de papa n'est pas non plus normatif. La richesse d'Abraham joue un grand rôle dans ce texte, mais ce n'est pas normatif. Le mariage d'après, pour Jacob, ce sera radicalement l'opposé. Ce sera complètement l'inverse. Hein. Jacob, il va arriver avec sa chemise. On verra ça plus tard. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ça, c'est la définition du mariage posé en Genèse chapitre 2. Et là, on voit la confirmation de ce principe. Le mariage est l'union d'un homme et d'une femme pour la vie, la fondation d'un foyer, d'une nouvelle cellule vivante. Se marier pour la vie. Un homme et une femme, donc, je l'ai précisé. Rien de nouveau de ce côté-là, mais une confirmation quand même. L'autre, par contre, ce qu'on peut retenir, c'est chercher un conjoint chrétien quand même là. Ça crève un petit peu les yeux dans notre texte. L'épouse d'Isaac se trouvait parmi les habitants de Canaan. L'épouse d'Isaac ne se trouvait pas parmi les habitants de Canaan. Hein. Paul a écrit aux veuves qui souhaitaient se remarier, mariez-vous dans le Seigneur, 1 Corinthiens 7, 39. Et il y a les recommandations générales qu'on trouve dans les épîtres de Paul, comme celui-ci, ne vous mettez pas sous un joug étranger. 2 Corinthiens 6, 14. Donc, quand on est chrétien, on cherche parmi la famille de Dieu. On peut retenir ça. On peut également retenir de garder sa virginité. Je pense que c'est un fondement solide pour bâtir une union. Hein. La sexualité est au service du mariage. Le mariage n'est pas au service de la sexualité. Il faut bien poser cela. La sexualité est au service du mariage. Le mariage n'est pas au service de la sexualité. Garder sa virginité, c'est un bon principe à retenir. L'approbation du mariage, j'ai rajouté, si vous avez un projet de mariage, l'approbation des gens qui vous aiment est quand même importante. Je crois que dans ce texte-là, tout le monde est d'accord pour cette union. Hein. Ça fait consensus. Alors, si votre famille vous dit « tu es sûr ?» Si vos amis vous disent « tu es sûr ?» Et si l'Église vous dit « mais tu es sûr ?» Quand même, c'est utile d'avoir l'approbation des personnes qui nous aiment. Hein. C'est très très utile. Voilà les quelques points que j'ai retenus. Peut-être vous en voyez d'autres dont on peut s'inspirer dans ce texte pour sa vie et au XXIe siècle. Quelqu'un dira peut-être ce matin, moi, je me suis marié, mais alors là, j'ai pas coché toutes ces cases, hein. Et il y a même aucune case que j'ai cochée. Dans ce texte, dans cette histoire, c'est pas mon histoire du tout. C'est le jour, moi, mon histoire, c'est, la nuit, c'est le jour et la nuit par rapport à ce qui est dans ce texte. Je répondrai, pas de panique, pas de panique. La grâce de Dieu est là. Rien n'est impossible à Dieu. On peut s'approprier ce qu'a fait Abraham, ce qu'a fait Isaac, collaborer avec le plan de Dieu dans notre situation. Dans votre situation, collaborez avec le plan de Dieu tel que vous le comprenez. Ayez foi en Dieu, avancez avec lui dans le chemin qu'il vous montre. Pas de panique. Quelqu'un d'autre dira, moi je suis casé, j'ai pas d'enfant à marier. Est-ce qu'il y a rien d'autre pour moi dans ce texte ce matin? Alors, s'il y a une métaphore qui est valable pour nous tous et que je vais développer en quelques mots. J'espère, je vois que l'heure a bien tourné, j'espère que je ne vous ai pas lassé. Une métaphore, donc, pourquoi ce récit particulier dans nos Bibles? Alors, beaucoup de personnes y voient une magnifique métaphore pour nous aider à saisir les réalités spirituelles qui nous dépassent complètement. Ce genre de texte peut nous y aider. Alors les métaphores ont toutes leurs limites. Et donc je l'exprimerai ainsi. Dieu le Père envoie l'Esprit Saint dans le monde pour chercher une épouse pour son Fils. Cette épouse, c'est l'Église. Dieu le Père envoie le Saint-Esprit dans le monde chercher l'Église pour le Fils de Dieu. Alors les personnages, Abraham, Dieu le Père, Isaac, Dieu le Fils, le serviteur, le Saint-Esprit et Rebecca, l'Église. Qu'est-ce que cette métaphore nous enseigne? Le christianisme est une histoire d'amour. Le christianisme, c'est une histoire d'amour. Le voir différemment, c'est une histoire d'amour, c'est très simple. Dieu a tout organisé. Également, on peut comprendre que Dieu a tout organisé. Dieu a tout vu d'avance. Mais, passons-nous. Rebecca a dit, j'irai. Elle a dit, j'irai. Elle a dit, oui. Et dans ce long voyage qui nous sépare de Christ, qui nous sépare des noces de l'agneau, nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit. Et nous apprenons à connaître Isaac, notre Isaac céleste. Et le voyage est long. Le Saint-Esprit nous conduit et nous instruit. Comme Rebecca, nous l'aimons sans l'avoir vu. Nous croyons en lui sans le voir encore. Nous réjouissons d'une joie merveilleuse et glorieuse, car nous obtiendrons le salut de nos âmes pour le prix de notre foi. 1 Pierre 1,9. Et enfin, cette métaphore expose les vertus chrétiennes que nous pourrons développer. Alors, ces qualités à développer, quels sont les traits de caractère de Rebecca qui sont mis en avant dans notre texte? Il y a le service généreux et persévérant. Elle a vraiment pas hésité à aller chercher cette eau pour tous ces chameaux. C'était pas une mince affaire. Elle l'a fait avec joie, avec plaisir, avec gaieté, avec fraîcheur. Un bel exemple pour nous de service. Son engagement également, elle a dit oui. Elle a dit oui, j'irai. Sa foi d'aller vers cet homme qu'elle ne connaissait que parce qu'elle avait entendu du témoignage du serviteur et vu des qualités à développer donc à travers Rebecca. Voilà ce que Rebecca nous enseigne. Et qu'est-ce que le serviteur nous enseigne? Il nous enseigne aussi des choses. On ne cherche pas dans l'évangélisation les âmes perdues pour nous-mêmes, pour nous glorifier à travers elles, mais pour le Seigneur. C'est remarquable comme le serviteur, il fait tout pour le Seigneur. Quand il y a un exaucement de prière, c'est pas sa prière qui est exaucée, c'est la prière qu'il a fait pour le Seigneur. Et il rend toujours gloire à son Seigneur, rien pour lui. Aucune satisfaction il ne prend sur lui-même. Et ça nous donne un exemple de l'attitude que nous pouvons avoir, nous, dans ce travail d'évangélisation. On voit aussi la reconnaissance du serviteur devant l'exaucement de sa prière pour son Seigneur. Sa fidélité exemplaire également. Moi, ça m'a beaucoup parlé. Il est fidèle dans la narration de tous les événements. Il dit les faits, il n'ajoute rien, il ne retranche rien, il est fidèle. Il est fidèle également, il ne met pas de pression pour arracher le oui, pour faire réussir sa mission à pouvoir rentrer chez lui. Non, il dit les choses en laissant complètement le choix à Laban, à Bethuel et à Rebecca. Le choix est de leur côté. Il est fidèle envers son Seigneur également. Son temps ne lui appartient pas. Son temps ne lui appartient pas. Il aurait pu rester facilement là 10 jours de plus. Voilà, invité dans la famille, on mange, on boit, c'est chouette, rien à faire. on se repose, la belle vie pour 10 jours. Non, son temps ne lui appartient pas. Il appartient à son Seigneur. Et il faut qu'il rentre. Lui, il a fini, je dois rentrer. La fidélité du serviteur est un exemple pour nous. Est-ce que Laban habituel nous enseigne, je l'ai déjà souligné, ne pas être des collaborateurs à l'envers. Au lieu de contribuer à l'accomplissement du plan de Dieu, des prophéties, on fait l'inverse, on les retarde. Et ça, c'est très facile de tomber là-dedans. C'est très facile de travailler à l'envers, d'être contre-productif. On connaît bien ce terme aujourd'hui. Voilà ce que j'avais prévu pour nous ce matin, que ce texte puisse nous émerveiller encore et encore quand nous le relisons, chaque fois que nous le relisons, et qu'il puisse nous émerveiller de plus en plus, jusqu'à ce que nous aussi, on soit arrivés auprès de notre Seigneur. Seigneur, merci pour ta grâce et ta bonté, ta fidélité. Merci pour ces bons enseignements qu'on peut trouver à travers ces histoires d'une poésie remarquable, mais elles sont d'une poésie authentique, vécue, empreinte de ce que nous sommes et qui nous touche au plus profond de nous-mêmes, Seigneur, et qui nous parle au plus profond de notre être. Merci pour ta parole, la parole de Dieu. Merci pour ce guide sûr et fiable. Et Seigneur, comment ne pas te confier toutes les couples en devenir, Seigneur, tous ceux qui doivent choisir des conjoints, des conjointes, Seigneur, te demander que tu sois avec eux, que tu les conduises, que tu les bénisses, comme tu as béni Isaac et Rebecca. Merci Seigneur pour cet avenir que tu as prévu pour ton Église, comme l'a enseigné Paul dans les Éphésiens au chapitre 5. Seigneur, combien nous voulons être prêts pour cette rencontre avec notre Seigneur, que nous soyons ensemble, que nous soyons unis, que nous soyons beaux et belles devant toi, que nous soyons parés, habillés, que nous soyons tout prêts. Seigneur, merci pour l'Esprit Saint qui nous conduit en toutes choses. Merci parce qu'il est avec nous sur ce chemin. Il nous garde, il nous protège, Seigneur. Merci de cela, il est en nous. Et Seigneur, à toi soit toute la gloire pour tous les siècles, Seigneur. Te remercier vraiment tout le bien que tu nous fais. Dans le nom de Jésus. Amen.